Europe 1.
Bienvenue au cœur de l'histoire dans les interviews du vendredi. Je suis Virginie Giraud. C'était il y a plus de 200 ans, la création du service militaire obligatoire. Depuis 2001, le service national a été remplacé par une journée défense et citoyenne, la JDC, pour tous les garçons et les filles âgés de 16 à 25 ans. Mais aujourd'hui encore, le débat sur la remise en place ou non du service militaire est toujours d'actualité. D'ailleurs, le gouvernement étudierait une potentielle généralisation du service national universel, le SNU, aux adolescents de 15 à 17 ans. Quels sont les fondements du service militaire? Comment a-t-il évolué au fil des années? Et pourquoi revient-il au centre de l'actualité? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir David Chantrane, historien, rédacteur en chef de Napoléon Ier, revue du souvenir napoléonien, et directeur des sites patrimoniaux de Rueil-Malmaison. Bonjour David Chantrane.
Bonjour Virginie Giraud.
Avant la Révolution française de 1789, est-ce qu'il y a déjà un service militaire ou quelque chose d'équivalent sous l'Ancien Régime ?
Pas tout à fait. C'est vrai qu'il n'y a pas cette idée de conscription, de faire un appel au drapeau pour l'ensemble d'une génération. Auparavant, on fait davantage appel à ce qu'on peut appeler vraiment des mercenaires, c'est-à-dire des troupes très disparates. Et ça a notamment été le cas pendant la guerre de Sept Ans, quelques temps avant cette Révolution française. Donc, les armées qui sont engagées, elles le sont en fonction des besoins et puis surtout des guerres qu'on entreprend, ce qui a été le cas justement sous l'Ancien Régime.
Et on voit dans certains films, et je pense à Vaincre ou mourir qui se passe en Vendée en 1790, où on voit les révolutionnaires qui tirent au sort des gens pour pouvoir les mettre dans l'armée et aller se battre aux frontières du royaume de France. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tirage au sort ?
Alors, en 89, au moment de la Révolution, on a besoin effectivement de défendre des territoires. Ça va être ensuite en 1792, donc 3 ans après, ce qu'on va appeler l'appel au peuple, c'est-à-dire la défense nationale, vraiment. Et donc, on sait qu'il y aura une grande bataille à ce moment-là, c'est Valmy, en septembre, juste avant que la République ne soit proclamée. Mais auparavant, effectivement, on a besoin de troupes. Et donc, pour vaincre ou mourir pour ce film, eh bien, il y a un tirage au sort parce que la mesure était engagée à peu près pour 30 à 35% des appelés, c'est-à-dire vraiment des conscrits tels qu'on les entend aujourd'hui ou tels que ça a été ensuite évolué. C'est vraiment des jeunes de 18 à 20 ans qui sont appelés et ce tirage au sort permet justement de savoir quels sont ceux qui vont faire, hélas, partie des 30 ou 35%.
Et on peut s'y soustraire, j'ai 18 ans, je suis tiré au sort, j'ai pas envie d'y aller, je peux envoyer quelqu'un à ma place ?
Alors, c'est pas tout à fait encore le cas, ça va être davantage à partir du Directoire et de l'Empire, où là, effectivement, il y aura tous des éléments que même nos conscrits les plus anciens, qui aujourd'hui connaissent ça et qui ont été appelés sous les drapeaux dans ce qu'on a appelé le service national à partir des années 65, eh bien, il était possible, soit parce qu'on était chargé de famille, soit parce qu'on était dispensé, parce qu'il y avait tant d'autres raisons de ne pas faire ce service national. Mais à l'époque, c'est vraiment le tirage au sort qui le fait. Et ensuite, il y aura quelques arrangements, évidemment, en fonction des titres et des rangs de chacun.
Vous avez parlé plusieurs fois de conscription, mais c'est quoi exactement ? C'est une réquisition ?
C'est exactement cela. C'est-à-dire que le conscrit, au moment où l'appel se fait pour la défense de la nation, en 1792, eh bien, on va mettre en place, et cette loi, elle va s'appeler Jourdan d'Elbrel, le 5 septembre 1798, eh bien, cet appel, il est fait justement pour compenser, parce qu'au départ, il y a des volontaires qui se sont engagés, et on en avait beaucoup. Parce qu'on savait que cette France républicaine qui allait être mise en place, elle allait être attaquée de toutes parts par les monarchies environnantes. Mais après la chute de Robespierre, il y a eu une sorte de flou. On s'est dit, mais pourquoi faut-il créer des républiques autour de la France ? Est-ce que tout ça n'est pas vraiment avec un intérêt important ? Donc, cette loi Jourdan d'Elbrel, elle doit compenser. Donc, on fait appel à des conscrits, c'est-à-dire, quelle que soit votre condition, à 18 ans, vous êtes appelé et à 20 ans, vous devez vous engager sous les drapeaux pour servir et faire cette défense nationale.
Et on va avoir une cohabitation des conscrits et des volontaires ou il n'y a plus que des conscrits à ce moment-là ?
À ce moment-là, il n'y a plus que des conscrits. Ensuite, effectivement, parallèlement à cela, vont s'engager des troupes encore étrangères qui vont donner naissance ensuite en 1831, donc bien plus tard, à notre Légion étrangère. Mais ces troupes étrangères sont organisées par affinité et surtout par organisation entre guillemets nationale. C'est pour cette raison que nous aurons des troupes suisses, que nous aurons des troupes croates ensuite au moment du consulat et de l'Empire, parce que justement, ils ont un même esprit de défense de cette idée de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, telle que la France peut l'engager.
Vous nous parliez justement de cette loi Jourdan-Delbrel de 1798 qui fonde le service militaire. Mais à quoi ça sert? Ça sert à former des soldats? Tout le monde doit être soldat? Ça sert à former une réserve? Comment ça fonctionne?
Justement. C'est-à-dire que la loi va mettre en place 5 ans de service. C'est-à-dire qu'en fonction des besoins, on pourra piocher dans ce contingent militaire très important. Ce sont des milliers de soldats. Hein. Vraiment, c'est quelque chose de très important parce que, eh bien, par la masse, on peut justement repousser l'adversaire. Ensuite, ça va évoluer. Cette loi, elle va évidemment évoluer tout au long des siècles. Et ensuite, Napoléon, on le sait, à partir de 1813, lorsque la campagne de Russie aura été engagée de manière un peu difficile, aura besoin de puiser dans ce qu'on appelle les réserves, effectivement, ceux qui sont trop âgés après ces 5 ans de service, ou ceux qui, au contraire, étaient trop jeunes. Et c'est pour cette raison qu'en 1813, on fait appel à des contingents de jeunes beaucoup plus tôt, c'est-à-dire 16 ans, 17 ans. Et comme cette loi est signée par l'impératrice Marie-Louise à ce moment-là, puisqu'elle est régente, Napoléon est encore en campagne, et bien on va appeler ces jeunes gens engagés très jeunes les Marie-Louise.
Et alors comment réagit le peuple à cette loi Jourdan-Delbrel et à ces évolutions au début du 19e siècle? Ils sont contents, ils refusent d'aller à l'armée, quel est le sentiment national?
C'est partagé, c'est-à-dire que ceux qui sont très conscients de ce qu'il faut faire, parce qu'il y a justement cette idée de se protéger des hordes ou des adversaires, ceux-là, finalement, sont les héritiers de ces volontaires de 1792. Mais pour bien nombre d'autres, c'est au contraire une opposition farouche. Et c'est pour cette raison qu'il va y avoir énormément de déserteurs, qu'il y aura énormément également de personnalités qui vont chercher à passer outre cet appel et qui vont se faire remplacer parce que comme il y a toujours cette volonté d'avoir à peu près entre 30 et 40% avant que les engagements soient beaucoup plus nombreux, mais ça c'est autre chose, eh bien on essaie d'avoir un remplaçant. C'est pour cette raison qu'il va y avoir des organisations qui vont se faire et que le tirage au sort finalement ne sera plus tout à fait le tirage au sort qu'on a connu au début.
Concrètement, David Chantran, imaginons que je dois faire mon service militaire au début de l'Empire avec Napoléon. Comment ça se passe?
Alors, ça se passe très simplement. Ça se passe très simplement parce que les appelés, justement, au drapeau doivent servir dans un premier temps pour connaître les usages, savoir manier une arme, marcher au pas. Et donc, ils portent un habit différent des autres, un habit bleu. Ce qui veut dire qu'ensuite, on va les appeler, justement, en fonction de cet habit, les bleus. Les bleus et même... Allez, on peut dire le mot, les bleubites, parce qu'on se moque un peu d'eux, ils sont un peu gauches. Alors le travail, justement, c'est de faire l'amalgame entre les anciens et ceux qui viennent d'arriver. Et sous cette forme-là, eh bien, on les intègre progressivement dans les régiments. Et puis après, très rapidement, eh bien, ils vont servir parce qu'on a besoin d'eux, en particulier pendant la Révolution et le Consulat et l'Empire. On a besoin d'eux très rapidement, donc... Eh bien, ce temps d'adaptation et de formation, il va être réduit à stricto sensu, à des choses très basiques. Et très vite, eh bien, ils vont être amenés à avoir ce qu'on appelle le baptême du feu. Donc, ils vont servir et directement tirer. D'où le fait que dans ces bleus, il y aura énormément de victimes parce qu'ils n'ont pas vraiment l'habitude. Et puis, la peur. Il faut comprendre ce que c'est. Donc, cet appel, pour quelqu'un qui était engagé, volontaire et qui avait envie de se battre, on allait dire qu'il a une certaine préparation d'esprit, mais pour nombre d'autres, ça a été très compliqué, d'où le fait qu'il y a eu des pertes très importantes.
Et ils sont dans des baraquements, comme on l'imagine aujourd'hui, dans les casernes militaires. Ils mangent ensemble, ils font leurs exercices ensemble. Ça ressemble à ce qu'on voit dans les films.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que les baraquements vont se faire progressivement. Il y a aussi des armées professionnelles, puisque Napoléon institue, alors qu'il n'a encore que Bonaparte, notre école de Saint-Cyr. C'est une école spéciale militaire. Et cette école spéciale, elle va permettre de faire justement d'avoir une formation très adaptée pour l'encadrement. Mais pour tous les autres, ceux qui sont appelés, eh bien, cette conscription va leur permettre de savoir lire, de savoir s'engager, de pouvoir apprendre des choses, et puis de travailler de conserve avec leurs camarades. D'où le fait que progressivement, en revanche, ça va se professionnaliser quasiment jusqu'au bout, et que tous ceux qui ont été appelés, qui n'étaient peut-être pas forcément des spécialistes, et bien ensuite, cet amalgame dont je parlais va se faire beaucoup plus rapidement, et ça va devenir des armées très efficaces. Mais c'est une évolution progressive. Ensuite, les baraquements, les grands bâtiments vont se faire tout au long du 19e siècle, et à la fin du 19e siècle, eh bien, on aura vraiment une organisation très précise en fonction à la fois de la région dont vous venez, et puis ensuite de ce que vous devez apprendre, parce qu'il y aura des missions définitives selon les transmissions, selon les chars ensuite, et puis ensuite, évidemment, le domaine aérien tel que nous le connaissons aujourd'hui.
Vous avez commencé à évoquer ce service militaire qui dure 5 ans, qui forme des vrais soldats aptes à se battre contre les royaumes étrangers, qui vont aussi bientôt suivre Napoléon dans ses conquêtes, puisque le Premier Empire arrive en 1804. Et Napoléon, c'est un homme qui fait la guerre. Et pour le suivre, on voit qu'il a une aura extraordinaire sur ses soldats. Comment fait-il pour faire en sorte que ses soldats le suivent au bout du monde ?
Il y a trois raisons à ça. La première, c'est que Napoléon, on a peut-être oublié aujourd'hui, c'est vraiment l'héritier de la Révolution, du Directoire. Il a été général du Directoire. Il s'est engagé en Italie et en Égypte avant que les grandes guerres, effectivement, qu'on le sait, campagne d'Allemagne avec Austerlitz, campagne ensuite de Prusse, puis campagne d'Espagne, je le disais, tout cela va engager la France sous une autre forme. Comment arrive-t-il, justement ? Eh bien, l'autre raison, c'est qu'au-delà d'être un héritier de la Révolution, c'est qu'il leur promet la gloire. Et la gloire à une époque où il n'y a quasiment que cela, c'est un élément très important. Et puis la troisième chose, c'est une raison pécuniaire. C'est évidemment parce qu'il y a une solde très importante. Il faut bien envisager qu'à l'époque, comme le règlement des opérations ne se fait pas diplomatiquement, c'est quand on a gagné la guerre qu'on le fait, et que d'une certaine manière, les relations sociales, elles sont engagées avec le prestige, eh bien Napoléon engage des troupes, elles sont au départ très fier de le faire parce que on peut tout gagner, à la fois de la promotion et puis surtout un rang. C'est ce qui va être le cas. C'est d'ailleurs à l'époque, c'est comme ça qu'on le disait, pour les maréchaux, eh bien, ces maréchaux de Napoléon, ils trouvaient leur bâton de maréchal, ils le trouvaient dans leur giberne, c'est-à-dire dans cette petite sacoche qu'ils avaient aux côtés, et que cette promotion sociale, c'est aussi par le militaire qu'on pouvait y accéder.
Donc le service militaire sous Napoléon est un outil de promotion sociale.
Complètement. Et c'est pour cette raison qu'ensuite, à la chute de Napoléon, parce que la Restauration va mettre en place un certain nombre d'éléments différents, eh bien, une grande partie de ces officiers, de tous ceux qui ont justement profité de cette promotion, on va les mettre en ce qu'on appelle en demi-solde. Ils vont toucher que la moitié de leur solde parce qu'on n'a plus besoin d'eux. Il n'y a plus d'engagement, il y a une paix générale qui est faite entre toutes les monarchies maintenant que Louis XVIII est au pouvoir. Et donc, d'être demi-solde, là, c'est vraiment la honte. Et donc, pour certains, ils sont obligés de se cacher, même si certains restent encore fiers. Il faut se cacher parce qu'on est attaché, finalement, au régime précédent.
Alors, cette loi sur le service militaire va encore connaître des évolutions, notamment le 21 mars 1905. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Pourquoi il y a un renouveau du service militaire à ce moment-là ?
Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que il y a un esprit de revanche, comme vous le savez, depuis 1870. On se dit que l'Alsace-Moselle redevienne française, qu'on prenne aussi une revanche vis-à-vis de la Prusse qui est devenue maintenant l'Empire d'Allemagne. Tout cela fait que les esprits sont en train de s'échauffer. L'autre raison, c'est que les conflits sont de plus en plus nombreux. Plus loin de nous, évidemment, cette guerre entre la Russie et le Japon, les conflits aussi coloniaux, tout cela fait qu'on a besoin de contingents importants. Donc la loi est faite pour ça, on la transforme, et à cette époque-là, ça n'est plus 5 ans, mais 3 ans, on va appeler ces contingents de soldats, cette conscription toujours, pour un service militaire. Et ce service militaire, eh bien, il va être très utile en 1913-1914, parce qu'au moment où on va mobiliser en août, le 1er août 1914, eh bien, ces contingents seront justement prêts à servir. Et l'autre raison définitive, là, c'est psychologique, c'est-à-dire qu'on est vraiment redevenu une république dans l'esprit de 92. C'est-à-dire qu'il y a eu la séparation de la loi des églises et de l'État, il y a eu une formation intellectuelle qui est faite par ce qu'on appelle les hussardes noirs de la République, c'est-à-dire ces instituteurs qui ont formé à la fois pour l'esprit de la revanche, et de dire « vous ferez des bons soldats, mais vous serez aussi de bons citoyens en même temps ». Et les deux se confondent vraiment.
Parlons maintenant des événements d'Algérie. La guerre d'Algérie entre 1954 et 1962, c'est plus près de nous. On a parfois des grands-parents qui ont fait cette guerre. Et ça passait beaucoup par le service militaire. Il y avait une obligation d'aller en Algérie. Ça commençait, j'ai l'impression, à être vécu comme quelque chose de tragique. On ne voulait pas y aller. Il y a un premier élan contre le service militaire à ce moment-là, non ?
Oui, parce que on ne comprend pas réellement cette cause. Il y en a certains qui vont la comprendre, parce qu'il y a aussi toujours une idée de prestige, se dire l'Empire français, il faut le maintenir coûte que coûte, et à juste titre, on considérait à l'époque, parce qu'il y avait eu des engagements, parce qu'il y avait eu des investissements, que l'Algérie était française. Mais pour beaucoup d'autres, on comprenait pas ce sort. Comme d'ailleurs, certains n'avaient pas compris les conquêtes napoléoniennes, comme d'autres n'avaient pas compris d'aller se battre en 39, parce qu'on se disait, mais on peut peut-être arranger les choses autrement. Donc, les mobilisations de 14 et de 39, là, c'est tout à fait différent. Donc, on fait ce qu'on appelle l'appel du contingent, c'est-à-dire des conscrits qui sont engagés pour se battre dans un territoire qu'on ne connaît pas, où il n'y a plus du tout de repères. Et surtout, pour quelle cause ? Sachant qu'une sorte de décolonisation qui était en train de s'installer depuis l'après-45. Donc, ça va être très mal vécu par cette génération-là. Et puis surtout, il faut faire l'amalgame, ce qu'on appelle l'amalgame entre les officiers, les militaires, on va dire d'actifs et on va dire de professionnels, hein, c'est-à-dire qui ont vraiment cet appel en eux et qui savent vraiment ce que c'est que le métier. Et puis toute cette génération qui va se suivre avec 18 mois et pour certains même jusqu'à 28, voire 30 mois de service en Algérie. Et pour ceux qui vont rentrer, la plupart hein, vont être durablement marqués, profondément dans leur chair. Certains ont écrit, mais pour la plupart, ils vont garder en silence ce qu'ils ont connu, comme d'ailleurs, on s'en souvient, pour 14 ou pour les débuts de la guerre de 39.
Et les femmes dans tout ça, pourquoi elles étaient systématiquement écartées de l'armée jusqu'à il y a très peu de temps ?
Alors, sans les femmes, il n'y a pas d'armée. C'est-à-dire à la fois pour l'intendance, pour ce qu'on appelait au départ les vivandières et cantinières, qui vont servir aussi pour la nourriture, et puis, bon... il faut le dire.
Quelques plaisirs du soldat.
Mais ce qu'on appelle le repos du soldat. Voilà. Donc, des BMC, des bordels militaires de campagne qui ont existé et il fallait prendre en considération tout ça. Mais il y a autre chose. Parce que l'engagement féminin va se faire pas uniquement de manière militaire, même s'il y a certaines femmes qui vont servir sous les drapeaux déjà au moment de la Révolution. Donc, il y a des femmes qui se font passer pour des hommes ou qui, au contraire, on va commencer à accepter à partir des années 1805-1810 et qui vont devenir, tout au long du 19e siècle, des combattantes. Mais au-delà de ça, c'est qu'on a besoin des femmes aussi pour à la fois que le soldat soit vraiment concentré sur sa tâche et aussi parce que les femmes sont, je vais dire peut-être une banalité, sont mieux organisées. Donc, cette féminisation des armées, elle est progressive et en 14, on s'en convainc tout à fait parce que pour celles qui ne seront pas parties avec les soldats pour toutes les raisons que j'ai évoquées, eh bien, elles seront aptes aussi dans cet esprit-là parce qu'il y a des générations qui ont été préparées, elles seront justement là pour assurer le travail manuel, industriel et c'est pour cette raison que ça va se faire presque, j'allais dire presque naturellement.
Donc finalement, les femmes gèrent l'arrière et gèrent tout ce qu'il y a autour des hommes qui sont sur le front. Donc elles sont présentes dans l'armée d'une manière plus indirecte.
Exactement. Et ensuite, évidemment, cette féminisation des armées va se faire à partir des années 20-30, où là, elles sont beaucoup plus présentes. Et puis après 45, encore plus, où là, ça va être à la fois dans l'aviation, dans l'infanterie, donc l'armée de terre, ou aussi dans la marine, où de plus en plus de femmes seront engagées. Et on sait aujourd'hui qu'il y a même des générales, des amirales, enfin voilà. On a une formation qui est de plus en plus féminine et je pense que, comme pour certaines autres armées, c'est une excellente chose.
Mais il me semble bien que le service militaire, jusqu'à sa suspension par Jacques Chirac en 97, n'était pas ouvert aux femmes. D'ailleurs, Jacques Chirac parle de suspension du service militaire. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, le décret qui est pris le 22 février 1996 et qui est appliqué en 97, elle comprend deux volets. La première, c'est de suspension, se disant « nous n'avons plus besoin, dans l'évolution actuelle, de faire appel aux soldats par classe, hein, ce qu'on appelait par classe, c'est-à-dire que lorsque vous aviez 20 ans, il faut professionnaliser l'armée pour être plus efficace, parce que la technologie l'exige, et que faire appel aux soldats, c'est pas vraiment une très bonne chose. » Il faut peut-être utiliser les forces vives pour autre chose. D'ailleurs, depuis 65, cette loi de Mesmer qui avait été mise en place, eh bien cette loi permettait justement, si vous étiez plutôt dans le civil, eh bien vous pouvez être engagé dans ce qu'on appelait la coopération. Vous pouviez donc servir l'armée sous une autre forme. Vous pouviez faire des travaux administratifs. Hein. Bref, tout ça commençait déjà à dériver. Mais en 96, on a donc suspendu d'un côté pour cette professionnalisation et l'autre volet. Tout aussi intéressant, c'est de se dire, la suspension permet justement de se dire, en cas de coup dur, en cas d'évolution, si jamais les choses venaient à être différentes, on pourra tout simplement remettre en place les choses, ce qui est l'idée un petit peu de ce CNU qui est dans tous les esprits depuis quelque temps.
Justement, je vous pose une question de prospective. Vous pensez qu'on pourrait rétablir le vrai service militaire dans un temps relativement court ?
Je vais vraiment vous répondre, parce que souvent les historiens ont la fâcheuse tendance à balayer ce qui relève de la prospective. L'histoire nous a appris que justement, déjà rien n'est impossible, et que l'histoire, justement, elle ne bégaye pas. Vraiment, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à le dire, qu'elle se répète, rien ne peut être envisagé. Quand on voit d'ailleurs les évolutions actuelles sur les fronts, hélas, entre l'Ukraine et la Russie, mais dans d'autres champs de combat, quels qu'ils soient d'ailleurs, que ce soit des combats civils ou des combats sporadiques, les évolutions sont telles qu'on ne peut pas envisager l'avenir. En revanche, il faut la prévoir. parce que un certain personnage avec un bicorne avait dit gouverner, c'est prévoir, eh bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire envisager tous les possibles en se disant, bien entendu, aujourd'hui, pour le moment, on n'a pas forcément besoin, mais peut-être que dans les consciences, il faut se dire que il faut tout envisager et se préparer à la fois pour le défi militaire et donc technologique tel qu'il existe. Et peut-être qu'il y a d'autres formes à envisager dans les préparations, parce que la conscription, faut dire les choses comme elles sont, la conscription et donc l'appel sous les drapeaux, ça n'était pas uniquement qu'une question militaire, c'était aussi une cohésion sociale. C'était des gens qui venaient de tous horizons, qui ne parlaient pas au départ d'ailleurs la même langue. C'était d'ailleurs compliqué de mettre un Breton avec un Basque, un Alsacien avec un Corse. Eh bien, on le faisait en organisant des régiments selon justement ses accointances et ses particularismes locaux. Et ça permettait aussi de voir des gens qui étaient lettrés, d'autres qui ne l'étaient pas, et que cette cohérence, elle se passait aussi par les mois qu'on passait ensemble. Eh bien, c'est peut-être l'esprit qui prévaut à ce SNU, et d'une certaine manière, préparé pour le service militaire, mais préparé aussi pour une cohésion, c'est peut-être à cela qu'est jeté ce défi du 21e siècle.
Merci David Chantran, c'est toujours passionnant d'échanger avec vous. Je ne peux pas citer tous vos livres, il y en a trop et ils sont tous excellents. Alors on a fait des choix à la rédaction. Vous avez publié Les 12 morts de Napoléon aux éditions Passé Composé, et puis il y a le petit nouveau qui est en route, si je puis dire.
Oui.
Le 6 septembre 2023, vous ferez paraître chez le même éditeur Chronique des territoires. Merci.
Merci Virginie Giraud.
Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio. Et moi, je vous retrouve très bientôt sur votre plateforme d'écoute favorite.